Chapitre 3. Est-ce possible? Que me dites-vous là? Quelle chose étrange! Étrange, mais absolument certaine. Le docteur Lamier, d'ailleurs, n'est pas homme à mettre ces choses-là en circulation. On en parlera le moins possible. Sa femme me l'a confié parce qu'elle n'y pouvait plus tenir. Elle est nerveuse à un point, une vraie torpille. À un moment donné, il faut qu'elle éclate. Je vous répète l'histoire, vous sachant discrète. Oh, comme la tombe! Par exemple, je ne puis rien cacher à mon mari, mais vous permettrez bien que je lui raconte cette étrange affaire. Une lettre anonyme et en vers. Est-ce assez romanesque? C'était le lundi suivant, dans l'après-midi. Deux jeunes femmes, roulant en voiture découverte sur la grande route poudreuse qui conduit de Launeuve à Chanvert, s'entretenaient ainsi à voix basse, de peur d'être entendues de leur cocher. Elles étaient femmes de banquier toutes deux et tenaient de très près au clan autochtone sans lui appartenir complètement. Elles en épousaient par conséquent toutes les bisbilles avec une chaleur extrême, espérant que leurs ailes feraient oublier qu'elles n'étaient pas de la maison. « Pour moi, » dit la plus jeune, Madame Mareuse, en tirant son long gant de Suède sur un bras fort bien modelé, « je n'ai jamais eu trop bonne opinion de Monsieur d'Orbe. Le fait qu'il se laisse patronner par Madame Vendeur est loin de me paraître une recommandation. Elle est dans le mouvement, vous savez. La lettre ne formulait aucune accusation précise. » Non, mais à entendre Madame Lamier, on peut croire qu'il y a une femme là-dessous. Horreur ! Le malheureux se sera laissé entraîner à épouser quelque princesse africaine. Qu'il le dénonce maintenant en vers français, c'est à peine probable. Mais le champ des suppositions est immense. Si immense que ces dames furent à Chanvert avant de l'avoir entièrement parcouru. Chanvert est un hameau assis à mi-côte des hauteurs qui dominent le lac sur une jolie terrasse en contrefort qu'ombragent des tilleurs célèbres dans tout le pays. De plus, Chanvert a ses fontaines qui jaillissent à chaque tournant de son unique rue, emplissent les grands bassins de pierre grise, débordent et s'enfuient à travers les vergers. Le joyeux babil des nids, des ramées et des eaux courantes ramit Chanvert d'une incessante musique. C'est l'endroit le plus gai du monde, on y entend rire jusqu'aux Anglais qui le traversent pour monter plus haut. La maison de Mademoiselle des Anges s'appelle le château, bien qu'elle n'ait de féodale qu'une tourelle ronde, coiffée d'un été noir et collée à l'angle de l'est. Cet ornement architectural, inspiration regrettable d'une époque assez récente, enlève à la vieille demeure son vrai cachet de ferme cossue, bâti il y a 300 ans en rude moellon de pierre grise qui défiait les arquebussades. La façade large et basse, percée d'étroites fenêtres romanes en encadrement sculpté, est surmontée d'un toit énorme où l'on devine un monde de fruitiers, de greniers et de séchoirs. Si la maison elle-même est d'une grande simplicité, les jardins sont dignes d'une princesse ou d'un financier hollandais. C'est le grand luxe de Mademoiselle des Anges qui ne s'accorde que deux robes par année, comme la reine d'Angleterre, mais qui entretient au château une armée de jardiniers. La beauté des pelouses, des massifs, l'opulence des tilleuls, qui se groupent en masse d'un superbe contour, font oublier les incohérences architecturales du château, sa véranda, par exemple, qui jure avec la tourelle et son perron trop étroit pour cette ample façade. Trois grandes serres s'élèvent à quelque distance de l'habitation. L'une renferme les camélias et, plus tard, dans la saison, les azalées et les rhododendrons américains qui en sortent dans toute la gloire de leur resplendissante floraison pour étaler au milieu des pelouses leur flamboiement d'incendie et faire pendant quelques semaines l'admiration de tout le pays. La seconde serre abrite la famille des palmiers et celle des grandes fougères. Dans la troisième se trouve cette merveilleuse collection d'orchidées, célèbre à 30 lieues à la ronde, et pour laquelle Mademoiselle des Anges fait des folies que ses neveux voient d'assez mauvais œil. Le jardinier, aux soins duquel ces précieuses étrangères sont confiées, fait chaque année des efforts inouïs pour que le moment de leur plus splendide éclat coïncide avec l'arrivée de Mademoiselle des Anges à Chanvert. On convoque alors le banc et l'arrière-banc des Launevois et des voisins de campagne. On leur ouvre les serres, la maison, le verger, on établit des jeux de croquet et de l'eau tennis, on prend le thé sur la terrasse, on parle politique sous la véranda, théologie dans la grande avenue, cancans et chiffons autour de la table à thé, amour sous les ombrages. Le grand tulipier qui se trouve tout à l'extrémité des pelouses a vu se faire plus d'un mariage. Chose singulière, Mademoiselle des Anges, qui vit à l'eau-neuve fort retirée et n'accepte que de rares invitations, ne peut souffrir la solitude à Chambert, surtout pendant les premières semaines qui suivent son installation. Trop de souvenirs l'attendent au détour de chaque allée. Elle redoute de les rencontrer seule pour la première fois. C'est pourquoi, les housses du salon à peine enlevées, elle lance ses invitations. « Venez nous aider à pendre la crémaillère !» Et l'on se garde de refuser. On sait que les garden parties de Mademoiselle des Anges ne sont pas un méli-mélo d'artistes de retour de Paris, de princesses russes, d'étudiants grecs ou de ces gens éclos de la veille qui savent à peine le nom de leur grand-père et qu'on appelle à l'eau neuve des champignons. Non, tous les invités de Mademoiselle des Anges ont chez eux des portraits de famille authentiques et des archives. Ils éprouvent tous pour la démocratie une horreur suffisante. Ils ont tous, les hommes bien entendu, fait des études classiques et peuvent citer au besoin Timéo Danaos ou bien Horis Sacra Fames. « Ce qui me charme, dit Madame Mareuse en descendant de voiture, c'est de sentir que chez Mademoiselle des Anges, nous sommes si parfaitement entre nous. » Mademoiselle des Anges elle-même descendait les marches de la véranda de son pas vif et léger comme celui d'une jeune fille, les rubans lilas de son bonnet flottant derrière elle dans le perpétuel courant d'air de son activité remuante. « Bonjour, mes charmantes, venez vous asseoir, vous rafraîchir. Voulez-vous monter dans la véranda ? Non, vous y voyez trop de gens graves ? Eh bien, voici les joueurs de croquet et voilà le coin des causeries au bout de cette allée. Monsieur d'Orbe, vous a-t-il déjà été présenté ? Tiens, vous avez Monsieur d'Orbe ? Fit Madame Mareuse en levant légèrement ses fins sourcils d'un air de surprise choquée et cependant voilée de politesse. Mademoiselle des Anges la regarda un instant. « Se pourrait-il que d'autres que nous aient reçu de ces lettres abominables ?» se demanda-t-elle aussitôt. « La présence de Monsieur d'Orbe est un plaisir pour moi et un honneur pour Chambert, » répondit-elle en se redressant. Madame Mareuse n'ajouta rien. Elle considérait la pointe de son pied avec un vif intérêt et s'amusait à en dessiner le contour avec le bout de son parasol. Mademoiselle des Anges lui prit le bras vivement et l'entraîna dans une petite allée déserte qui se perdait sous les acacias. L'autre jeune dame les suivit précipitamment. « Souvenez-vous, Juliette, que vous m'avez promis le secret. Madame Lamier m'en voudra à mort si l'affaire s'ébruite. Sa belle-sœur, Madame Vendeur, est toute pour Monsieur d'Orbe. Ne voyez-vous pas les conséquences ? Qu'est-ce ? Qu'y a-t-il ? Je veux le savoir, dit Mademoiselle des Anges de sa voix brève et impérative. « Parlez, Juliette, ces mystères me font bouillir !» Juliette, c'est-à-dire Madame Mareuse, se laissa tomber sur une chaise rustique qui se trouvait là, dans l'attitude d'une martyre parfaitement résolue à endurer la question ordinaire et extraordinaire sans desserrer les lèvres. « J'ai promis le secret » dit-elle en levant les yeux vers les branches minces et des acacias pour les prendre à témoin de son inviolable discrétion. « Sottise !» fit Mademoiselle des Anges, qui n'y allait pas par quatre chemins. « Vous brûlez de le dire, votre secret. Que n'avez-vous tenu votre langue tout à l'heure, au lieu de murmurer d'un air scandalisé ? Tiens, vous avez Monsieur d'Orbe ? Que vous a-t-il fait, Monsieur d'Orbe ? Qu'avez-vous contre lui ?»« Moi ? Rien ! Bonté divine ! Que voulez-vous que j'aie contre lui ?»« C'est ce que je demande !» Sachez d'ailleurs, Juliette, qu'en invoquant la bonté divine de cette manière frivole et vaine, vous transgressez le troisième commandement. Juste ciel, murmura la coupable Juliette. Voilà que vous recommencez, mais je réitère ma question et j'entends qu'on y réponde. Adressez-vous à Madame Dunant, dit Madame Mareuse. Pour moi, je suis liée. Je le suis aussi jusqu'à un certain point, mais si vous insistez, chère mademoiselle, fit Madame Dunant. Je le crois bien que j'insiste. Si c'est Madame Lamier qui vous a confié ce grand mystère, Toute la ville en sera informée dès ce soir. Elle est ma filleule, je la connais. C'est pourquoi je n'ai pas le moindre scrupule. Voyons, quel compte vous a-t-elle fait sur M. d'Orbe ?» Le docteur Lamier, répondit Mme Dunant, charmée de la violence qu'on faisait à sa réserve, le docteur Lamier a reçu ce matin une lettre anonyme dans laquelle M. d'Orbe est traité d'une façon... « Aussi injurieuse que mensongère !» interrompit Mademoiselle des Anges. « Bon, nous y voilà !» Elle respira fortement, ce qui était chez elle un signe d'indignation concentrée. « Quand j'apprends, moi, qu'un honnête homme est en butte à de lâches accusations, savez-vous ce que je fais ?» dit-elle en fixant sur ses deux interlocutrices ses terribles yeux bruns pleins d'éclairs. « Quoi donc, chère mademoiselle ?»« Je l'invite à Champvert !» Là-dessus, elle s'éloigna de son pas le plus militaire et disparut au tournant de l'allée. Les deux jeunes femmes échangèrent un sourire un peu embarrassé. « Il est aisé, Mademoiselle des Anges, dit Madame Mareuse, de se montrer magnanime et même un peu Don Quichotte, quand on a une position inamovible. Mais chacun n'est pas Mademoiselle des Anges. Moi, d'abord, je ne saurais garder trop de prudence à cause de mon mari. » Comme il n'est pas de l'honneuve, il compte sur moi pour lui indiquer les écueils. Notre situation a des exigences particulières. » Madame Dunant, victime aussi de ses devoirs de famille, n'avait rien personnellement contre M. d'Orbe, mais sa mission de gardienne du foyer, l'avenir de ses enfants, qu'on ne saurait préparer de trop loin, l'aînée de ses filles avait 6 ans, lui imposait des sacrifices, des réserves. La majeure partie des invités de Mademoiselle des Anges se trouvait appartenir à la fraction colombique et toutes avaient également des obligations filiales, conjugales, fraternelles ou sociales qui leur commandaient d'éviter, non pour elles-mêmes, mais pour le bien temporel et spirituel des leurs, tout contact délétère. Rémy d'Orbe ne tarda pas à s'en apercevoir, malgré son indifférence dédaigneuse. Il vit que la solitude se faisait peu à peu autour de lui et de Madame Vandeuvre, comme si on affectait de les laisser en tête à tête. Les dames, auxquelles Mademoiselle des Anges le présentait, le tenaient à distance avec une politesse inabordable. Dans un groupe très animé, la conversation cessa tout à coup à son approche. Le docteur Lamier venait d'arriver avec sa femme. Celle-ci, une petite personne brune et pâle, avec d'immenses yeux noirs qui lui mangeaient tout le visage, l'air d'une muse tragique et la fièvre dévorante d'une redresseuse de tort, passa près de Rémy en lui jetant de bas en haut un regard destiné à allumer des charbons dans la conscience de ce criminel si toutefois il avait rapporté à l'honneur quelques vestiges de cet organe. À force d'avoir, depuis la veille, récité et interprété la lettre anonyme, sous le sceau du secret, à toutes ses bonnes amies, Madame Lamier en était arrivée à une certitude inébranlable. Il y avait une femme là-dessous, une femme délaissée, jeune, belle, une étrangère, peut-être une musulmane, peut-être, ô tableau plus pittoresque encore, la fille d'un grand chef, non pas noire, mais coulée en bronze vivant, parée de coquillages. Là-dessus, Madame Lamier avait relu la fille d'Otaïti et versé une larme sur les plaintes de cette intéressante jeune personne qui, pour être moins juponnée que ses sœurs européennes, n'en exprime pas moins les sentiments les plus délicats. Elle trouvait même une frappante analogie entre ce vers de l'Aude. « Reste, ô jeune étranger, ne me dis pas adieu !» et le début de la lettre anonyme reçue par son mari. « Que le funeste étranger... R.D. vous dise bientôt adieu, qu'il cesse de fouler votre sol hospitalier, c'est là mon vœu. » Ce que Madame Lamier commentait avec la puissance imaginative d'un professeur allemand qui découvre le déluge, la fin des temps et toutes les époques intermédiaires dans un vers de Goethe. La pauvre enfant trompée, abandonnée, l'a suivie et maintenant elle nous met en garde contre le séducteur dans son style naïf. La musique, le rythme sont le langage de ces peuples primitifs. Voilà pourquoi elle s'exprime en vers. Et si elle use d'un moyen qui nous semble peu honorable, c'est ignorance, pure ignorance, pauvre petite. D'ailleurs, la loi, qui en tout pays opprime la femme, n'en met pas d'autres à sa portée. Mais moi, je prends ici l'engagement de la chercher, de la trouver, de lui tendre une main de sœur et d'obliger le séducteur à l'épouser. » Madame Lamier, les yeux remplis d'un feu vengeur, toute sa petite personne, frémissante de révolte contre l'ordre social et les indignités qu'il tolère qu'on fasse aux filles d'Otaïti, communiquait son indignation à la ronde. Le docteur, qui s'était joint au groupe réuni sous la véranda, voyait de loin sa femme se promener dans les allées entre deux confidentes qui, suffisamment édifiées, cédaient leur place à deux autres jusqu'à ce que tout le cercle féminin eût pris un air de mystère et de conspiration. Mais il était si accoutumé aux effervescences de Madame Lamier qu'il ne prit pas garde à ses gestes dramatiques. « La voilà partie en guerre contre quelques moulins à vent, » pensa-t-il. S'il lui avait communiqué la lettre anonyme, c'est qu'elle était jalouse et avait pris elle-même les fonctions de secrétaire de son mari pour que toute la correspondance lui passât dans les mains. Rémy d'Orbe, un peu fatigué de la conversation papillonnante de Madame Vandeuvre, à laquelle il donnait la réplique depuis une grande demi-heure, cherchait les moyens de faire une retraite honorable quand Mademoiselle Desanges s'approcha d'eux. Elle sortait de son entretien avec Madame Mareuse et vibrait de la tête aux pieds d'une émotion vengeresse. Résolue à distinguer Rémy par toutes sortes de faveurs spéciales, elle lui demanda son bras pour aller aux serres vers lesquelles chacun commençait à se diriger. « Je veux vous montrer moi-même mes orchidées. Berthe, je ne vous reconnais pas aujourd'hui, vous avez plus d'entrain que cela d'ordinaire et surtout vous vous éparpillez davantage. » Madame Vandeuvre haussa les épaules en rougissant légèrement. Elle sentait autour d'elle une sorte d'électricité contraire qui la repoussait sans cesse dans un cercle étroit où elle était seule avec Rémy d'Orbe. Quelque charme qu'elle trouvât à la société de celui-ci, elle commençait à éprouver une espèce de malaise et soupirait après l'arrivée de son mari. « Il se trame quelque chose, » pensait-elle. « Mais est-ce contre moi, contre lui ? On nous isole, ceci devient compromettant. Il faut absolument que je m'échappe. » Elle s'arrêta à la porte de la grande sœur sous prétexte de regarder le tableau qui s'offrait de là et qui était charmant. La dentelle encore claire et mince des feuillages jetait un voile d'ombre légère sur le vert intense des pelouses et encadrait dans le fond le bleu d'une échappée sur le lac que piquait une voile blanche inclinée. À droite et à gauche, les tilleuls dessinaient leurs masses vigoureuses, des corbeilles de pivoine du Japon faisaient çà et là de gaies taches roses et les toilettes claires des joueuses de croquet couraient au milieu des massifs, entremêlant le bleu, le jaune pâle, le lilas, le rouge, en une mosaïque dont la disposition changeait à chaque seconde. Au-dessus des arbres, le vaste toit brun de la maison élevait ses girouettes en fer forgé, aux vrilles contournées comme des paraffes et qui tranchaient nettement sur la teinte délicate du ciel. À l'angle de la terrasse, on apercevait un coin de balustrade italienne à demi caché sous les grappes violettes de la glycine. « Un bateau XIXe siècle, n'est-ce pas ?» dit Madame Vandeuvre en prenant le bras de Monique qui passait à côté d'elle. « Vous avez raison, un pur bateau, aussi faux que joli, » répondit Monique. « Ah, mon Dieu, que ne donnerais-je pas pour un petit coin de nature et de naturel ? Nous sommes tous ici à jouer à la bergerie, à sourire débonnairement, avec des airs moutonniers. Si quelqu'un ouvre la bouche, on s'attend presque à l'entendre bêler, tant nous nous sentons innocemment champêtres, et nous n'en perdons pas un coup de dent par derrière. Cela va sans dire. Qui est-ce qu'on mord le plus aujourd'hui ? Est-ce moi ?» demanda Madame Vandeuvre avec une superbe indifférence. « Vous, peut-être, incidemment. Ah, il est fort bon, cet incidemment !» Vu du seuil, la grande serre aux orchidées offrait un coup d'œil d'une richesse tout étrange et fantastique. Une confusion de feuillages bizarres suspendus en l'air, se balançant en longues traînes, rampant, se tordant, s'accrochant, avec la grâce inquiétante des reptiles, les uns épais et gaufrés d'argent comme du cuir de cordoue, d'autres aiguisés en longues lames, d'autres d'un vert pâle semé de taches noires qui semblaient avoir été empoisonnés à l'arsenic. Leurs racines, parfois aériennes, s'attachaient à quelques fragments de bois mort d'où elles tiraient toute leur subsistance et laissaient voir à nu leur structure singulière qui imitait soit un corail jaunâtre, soit une patte palmée ou bien une houppe de filaments ténus comme des fils de la Vierge. Et quelle floraison, quel débordement, quelle cascade, quelle nappe de couleurs! Ces fleurs n'étaient pas des fleurs, c'étaient des papillons, des abeilles, des oiseaux-mouches qu'un caprice de la nature avait enchaînés à une tige. Elles avaient des corselets d'acier bleui, de grandes ailes veloutées, tachées d'un œil de pourpre, ou bien d'une blancheur pleine de paillettes, comme de l'albâtre vivant. D'autres étaient d'un jaune éclatant, avec des reflets métalliques. Quelques-unes, qui se balançaient au-dessus des têtes, suspendues avec leurs morceaux de bois nourriciers à une mince chaînette, étaient rouges et rondes comme des soleils couchants. Une autre, la plus remarquable, grande, couleur d'amadou, était faite comme une tête de mort. Monique, quand elle l'aperçut, détourna les yeux. « Je n'aime pas les orchidées, dit-elle, et vous? Elles ont l'air méchants. » « Regardez celle-ci, fit Madame Vandeuvre. Circé, elle est bien nommée, poursuivit-elle en lisant la carte fixée dans les griffes de la racine. La fleur superbe, solitaire sur sa tige, semblait les regarder. Un parfum exquis, à la fois subtil et violent, montait de sa coupe à large bord, qui semblait taillée dans un jade laiteux. En dessous, deux ailes arrondies, des ailes de papillon, bordées d'une frange pourpre plus fine que le plus fin duvet, semblaient soutenir la coupe et frémir pour s'envoler avec elle. « Quelle fleur merveilleuse !» s'écria Monique. « Mais dans la disposition où je suis, le moindre brin de réséda ferait mieux mon affaire. »« Sauvons-nous de cette odeur à migraine, » dit Madame Vandeuvre. « Il fait une chaleur effroyable sous ce vitrage. » Il lui tardait de pouvoir s'entretenir avec Monique. Toutes deux se dirigèrent vers la porte opposée et l'ouvrirent sans bruit. Mademoiselle des Anges, qui faisait à ses hôtes l'histoire d'un bulbe remarquable venu du sud de l'Afrique, fut prisonnier par les bourgs avec la malle-poste, délivré par un capitaine anglais et finalement vendu aux enchères d'une grande dame que les orchidées avaient ruinée, Mademoiselle des Anges ne remarqua pas leur fuite. Elles quittèrent la grande allée et s'enfoncèrent sous les arbres, car les jardins confinaient à une belle forêt de chênes qui faisait au château de Chanvert un parc de dimensions considérables et entièrement clos. « Ah, qu'on est mieux ici !» s'écria Madame Vandeuvre en entourant de son bras la taille mince de Monique. « Le voici, ce petit coin de nature après lequel vous soupiriez. »« Oui, mais nous le gâtons !» dit Monique avec une certaine froideur. Nous y introduisons l'artificiel. Que voulez-vous? Le temps des nymphes n'est plus. Ce siècle exige que nous ayons au moins 100 mètres d'étoffe sur nous. » Et Madame Vandeuvre jeta un coup d'œil complaisant sur la rivière de Valenciennes qui s'épanchait du haut en bas de sa robe. « Maintenant, Monique, reprit-elle d'un ton sérieux, si vous êtes au courant, j'exige que vous m'y mettiez aussi. C'est un service d'amis. Je suis comme derrière un mur. » Il se passe quelque chose de l'autre côté, on y assassine quelqu'un, ou tout au moins, on médite de le faire. C'est la réputation de M. d'Orbe sur laquelle on s'amuse à jeter de la boue, voilà tout, répondit Monique avec ironie. Il y a des gens qui ne craignent pas de se salir à ce divertissement. Quelqu'un a écrit des lettres anonymes, aujourd'hui on les affiche par charité chrétienne. On bâtit des histoires qui seraient révoltantes si elles n'étaient si absurdes. Je ne sais pas tout, mais... » Est-il question de moi dans ces histoires ? Demanda Berthe Vandeuvre, qui en restait à son point de vue. De vous ? En aucune manière. Le crime s'est passé en Afrique, à ce qu'il paraît. Vous me faites mourir de curiosité, dit Madame Vandeuvre. Elle entendit un bruit de pas dans le sentier, tourna la tête et s'arrêta. « Tiens, monsieur d'Orbe, fit-elle avec le plus grand sang-froid, nous parlions de vous, mais ne demandez pas ce que nous en disions. C'est bien à vous de nous rejoindre dans cette solitude. » Monique, troublée, jouait avec les boules de soie qui ornaient la poignée de son ombrelle. « J'espère, dit Rémy, que vous ne m'appliquerez pas le proverbe anglais. Deux et compagnie, trois et rien. C'est un proverbe de gens insociables. Quant à moi, j'ai un faible pour le nombre impair, répondit Madame Vandeuvre, qui discutait mentalement avec sa conscience de chaperonne la possibilité de laisser Monique et Rémy en tête-à-tête. Cette manœuvre faisait partie de son plan contre M. Colombe. Mais avait-elle toute la correction désirable ? Rémy d'Orbe, depuis la minute où il avait franchi la grille de champ vert, s'était mis en quête de Monique, dont toute la personnalité l'attirait irrésistiblement. Leur entretien de la semaine précédente lui avait paru n'avoir qu'un défaut, il avait été trop court et s'était terminé par des points de suspension. Monique Audel était la seule jeune fille absolument naturelle qu'il eût rencontrée depuis longtemps dans un cercle cultivé. Il croyait ce type entièrement disparu sous les raffinements de l'éducation artistique, scientifique et morale qui fait de l'âme d'une jeune fille un beau jardin plein de fleurs artificielles. Ils n'avaient pourtant échangé que quelques phrases, mais elles n'avaient rien eu de banal. Rémy croyait deviner dans cette mince et gracieuse enveloppe de jeune fille un bouillonnement de pensée, d'inquiétude, d'aspiration, qui montait parfois dans le regard comme une flamme vive. Cet esprit, plein de questions ardentes, quel charme il y aurait à le sonder ! Rémy d'Orbe, sans prendre en considération son acte de naissance, se trouvait vieux, très vieux. Il s'imaginait avoir laissé aux antipodes toutes ses illusions de jeunesse, et, de fait, ses voyages l'avaient beaucoup mûri. Il en était déjà à la période de désenchantement complet que nous traversons presque tous, mais plutôt après 30 ans qu'avant. Monique, par contre, lui semblait jeune, très jeune, un oisillon qui tremble d'ouvrir ses ailes et qui, du haut de son clocher, regarde la place du village, s'imaginant que c'est là le vaste monde. Rémy se représentait la jouissance exquise qu'il y aurait à revivre le passé dans cette âme riche et neuve, à diriger d'une aile plus sûre ses premières envolées. Il aurait voulu ne rêver qu'au moyen de rencontrer encore Monique pour s'entretenir avec elle. Mais d'autres préoccupations étaient entrées de force chez lui. Il avait assisté, en qualité d'honoraire, au banquet d'étudiants qui réunissait chaque année les jeunes et les vieux. Son voisin de table se trouva être le notaire Chauvette, dont l'attitude lui parut singulière. Compassé, presque hérissé, il trouva moyen, sans se départir d'un air de méfiance hargneuse, de faire subir à Rémy un véritable interrogatoire. À quelle époque il avait quitté l'Afrique, s'il n'avait jamais eu de duel, à quel code d'honneur les Européens voyageant en Orient se croient soumis, par le moyen de quel banquier ils gardent des communications financières avec le siège de leur fortune, et cent autres. Dans la lettre anonyme reçue le matin, Maître Chauvette avait découvert, non pas une femme, mais un créancier, celle que M. Lumeau, son tailleur, était venu lui communiquer en grand émoi, l'avait confirmé dans ses soupçons, à savoir que Rémy d'Orbe avait laissé derrière lui un sillage de dettes et que ses créanciers exotiques, n'ayant pas d'autre recours contre lui, à cause des lacunes de la législation internationale, le poursuivaient de dénonciations anonymes. Il faut dire que Maître Chauvette était un peu rancunier. Rémy, à l'âge où l'on est écolier, avait plus d'une fois tiré en passant la sonnette de l'étude, insultant ainsi à la dignité notariale. Plus tard, l'homme d'affaires de la famille d'Orbe étant mort, Rémy avait laissé au successeur, un blanc-bec et un étranger, la gérance de toute sa fortune, au lieu de la remettre avant son départ entre les mains expérimentées et autochtones de Maître Chauvette. Sous une telle gérance, le capital avait sans doute périclité, les intérêts avaient cessé d'affluer à l'échéance, Rémy d'Orbe, engagé dans de folles dépenses en plein pays d'usuriers, avait fait des dettes, puis s'était dérobé à ses engagements. Rien de plus évident. La sonnette de l'étude Chauvette était vengée. Il faut reconnaître que le vieux notaire, fidèle à la discrétion professionnelle, n'avait révélé à âme qui vive le contenu de la lettre anonyme. Il avait même enjoint à M. Lumeau de se taire sur ce sujet, ce que M. Lumeau se garda de faire. Rémy, tout en s'efforçant vainement de découvrir la portée de l'interrogatoire, sentait fort bien sous ses questions une intention malveillante. Son voisin de gauche, René Vandeuvre, restait boutonné jusqu'au menton dans sa réserve. les révélations du tailleur avaient déjà fait le tour de la ville, et de toutes les personnes assises à cette immense table en fer à cheval, il n'en était qu'une qui ignora que Rémy d'Orbe était accusé d'actes peu honorables, c'était Rémy d'Orbe lui-même. Les jeunes, cependant, fiers de sa présence à leur banquier, le défendaient avec un enthousiasme généreux et lui faisaient fête à l'envi. Ils se concertèrent entre eux pour savoir s'il ne serait pas à propos de l'avertir, mais ils décidèrent finalement de sursoir encore pour quelques jours à une explication pénible et de voir si ses soupçons vagues prendraient quelque consistance. Le jeune homme remarqua quelque chose d'insolite dans l'accueil chaleureux des uns aussi bien que dans la froideur des autres. Étonné, froissé, puis inquiet, il quitta la table de bonne heure. Dans sa chambre d'hôtel, un sentiment de solitude insupportable le saisit. Où étaient ses amis? Où était le cercle intime dans lequel il s'imaginait retrouver sa place? C'était à une défiance non dissimulée qu'il se heurtait de toutes parts. Lonneuve le considérait comme un déserteur devant lequel les rangs devaient se fermer. « Eh bien, qu'à cela ne tienne, je repartirai. » Tout à coup, il songea que le lundi suivant, il verrait sans doute Monique Audel à Chambert. Le lundi était arrivé, Rémy d'Orbe était à Chambert. Mais tout sembla d'abord s'opposer à ce qu'il rencontra Monique. La même lourde atmosphère de défiance l'enveloppa aussitôt qu'il se trouva parmi les hôtes de Mademoiselle des Anges. Il lisait dans tous les regards quelque chose de mystérieux, d'indéfinissable, un mélange de curiosité, de reproche, de répulsion. Madame Vandeuvre seule causait avec son abandon ordinaire. Quant à Mademoiselle des Anges, elle avait l'air de se mettre entre lui et la foule comme un bouclier. Trop fier pour interroger, il se demandait quelle loi divine ou humaine il avait bien pu enfreindre depuis l'avant-veille pour avoir attiré sur lui une réprobation aussi générale. Ce mystère finit par l'exaspérer, il se sentait pris dans les mailles d'un filet invisible. Il aurait voulu briser quelque chose. Monsieur Colombe venait d'arriver en compagnie de trois autres messieurs qui avaient été, comme lui, retenus en ville par un comité. Aussitôt qu'elle les aperçut, Mademoiselle des Anges parut frappée d'une idée soudaine, elle se dégagea du groupe qui l'entourait et, prenant le bras de M. Colombe, elle l'emmena à l'écart, derrière un groupe de fougères, et se mit à lui parler avec une grande vivacité. Rémy en profita pour quitter la serre, où il se sentait le point de mire des observations. Il se dirigea vers la barrière qui séparait les jardins de la forêt, et quand il aperçut Monique, à une petite distance, debout dans le sentier avec Madame Vandeuvre, le cœur lui tressaillit d'une joie subite. « Asseyons-nous ici, » disait Madame Vandeuvre. « Voilà des racines très engageantes. » Elle venait de se résoudre à chaperonner ses jeunes passereaux, mais d'aussi loin que possible. Au bout de quelques minutes, elle eut un léger frisson. « Comme l'ombre est fraîche, » dit-elle, « je vais chercher une autre place. Ne vous dérangez pas, Monsieur d'Orbe, je vous le défends. Voyez, je serai très bien là-bas sur cette grosse pierre. Nous causerons de loin. » Elle alla donc s'asseoir à 20 pas, en ayant soin de leur tourner le dos, et se posa en femme rêveuse, la joue sur sa main, les yeux noyés dans le brouillard des souvenirs. Les merles seuls, perchés sur les branches au-dessus de sa tête, jouirent de ce tableau improvisé. Mais la certitude de former, avec sa toilette printanière, ses cheveux blonds et ce cadre de verdure, un adorable sujet d'aquarelle, suffisait pour le moment au bonheur de Madame Vandeuvre. Monique ne disait rien, elle aurait eu trop à dire. Elle regardait ce joli sentier et le velours des mousses sur lesquels le soleil, à travers le feuillage encore mince, faisait pleuvoir des taches d'or. Les troncs des hêtres, d'un gris délicat, s'élançaient, sveltes et forts, à la recherche de la lumière qu'on devinait là-haut éblouissante, mais qui se faisait douce et discrète sous la jeune ramée. Être assise là, près de lui, à écouter le bruissement des feuilles, c'était le bonheur le plus pénétrant que Monique eût jamais connu. Ce ne fut point une brusque révélation, il lui semblait qu'elle aimait Rémy depuis des années. Elle oubliait tout le reste sans effort. Vivre ces minutes exquises, c'était assez. Il la regardait, cherchant à deviner la cause de ce long silence, mais craignant lui-même de le rompre. Il suivait des yeux le contour de sa joue, de son cou, sur lequel frisottaient deux petites boucles échappées qui brillaient comme de l'or bruni dans un furtif rayon de soleil. Sa robe était de soie de Chine, semée de petits bouquets sur un fond d'un jaune très pâle. Rémy eût été prêt à jurer qu'il n'avait rencontré nulle part une aussi jolie robe. Comme Monique était assise un peu au-dessus de lui et qu'elle détournait légèrement la tête, il ne la voyait que de profil perdu, mais sa pose pleine d'abandon suffisait à le charmer. Il finit même par être ravi qu'elle ne parlât pas. Ces longs silences, on ne se les permet pas avec une connaissance banale. Quelle tranquillité régnait autour d'eux. Tout bas, dans son cœur, Rémy bénissait Madame Vandeuvre. Il oublia l'imbroglio dans lequel il se débattait tout à l'heure, son calme lui revint. Que lui importaient les jugements de l'honneur, aussi longtemps qu'il resterait en sympathie avec l'esprit large et sincère de cette jeune fille. « Que ferez-vous à l'honneur, monsieur d'Orbe ?» demanda enfin Monique, suivant le fil de ses pensées. « Vous savez qu'ici, chacun s'emploie à quelque chose. C'est la règle. » « Et je serais bien fâchée d'y déroger. Mais conseillez-moi, à quoi suis-je bon ?»« À beaucoup de choses, j'imagine. Si j'étais vous, je commencerais par débrouiller mes notes de voyage et puis je les publierais. » « Tout juste ce que j'avais l'intention de faire !» s'écria Rémy enchanté. « Mais qu'en dira l'honneuve ?»«
Je ne sais, cela dépend. » »«
De l'esprit dans lequel je traiterai les grandes questions ?» Et comme déjà je ne suis pas en odeur de sainteté, l'examen de dogmatique sera plus rigoureux que moi que pour un autre. On exigera que ces notes de voyage, prises au vol dans la fatigue d'une arrivée ou dans la précipitation d'un départ, expriment ce qu'il y a en moi de plus inexprimable. On voudra savoir ce que je pense de Bouddha et des Vaudous, si je crois à l'évolution religieuse. Et comme mon humble opinion différera peut-être de celle de nos docteurs, il y aura un orange dont je recevrai toute la grêle sur la tête. « Quant à éluder, dit Monique, ce serait bien inutile. Une fois ou l'autre, on vous mettra sur la sellette. Notre monde veut savoir à quoi s'en tenir. Il y a bien l'autre camp à l'honneuve. Si vous vous trouvez trop à l'étroit parmi nous, dans l'autre camp, je ne vous rencontrerai pas, dit Rémy. » Monique le regarda, puis sourit sans répondre. Madame Vandeuvre, fatiguée de sa rêverie, venait de se lever et ouvrait son ombrelle de dentelle blanche pour continuer sa promenade lorsque quelqu'un parut sous la verte arcade des branches. C'était M. Colombe, le front sourcilleux, porteur d'un message dont il ne lui plaisait qu'à demi d'être chargé. Le comité dont la réunion l'avait retenu en ville était celui d'une antique fondation appelée le Fonds des voisins, sorte d'association de secours mutuel dont les bases avaient été posées et le capital primitif réuni par quelques pères de famille, sages et prudents bourgeois, qui habitaient tous le même quartier de l'Honneuve vers la fin du XVe siècle. Ce fonds, habilement administré, s'était fort accru, ayant traversé sans naufrage plus d'une tempête politique et financière, s'était converti en bonnes hypothèques, en immeubles, en vignes et secourait chaque année nombre de familles nécessiteuses, rejetant des 3 ou 4 souches primordiales. Son conseil de surveillance se réunissait de temps en temps, mais la gérance de ses capitaux dispersés et la distribution des secours incombaient au secrétaire. Pour cette fonction difficile, absolument gratuite, on choisissait un homme de loisirs et de fortune qui put y consacrer le plus clair de son temps. Or, le secrétaire actuel, après 11 ans de service, venait de donner sa démission et le conseil de surveillance se trouvait fort empêché pour lui découvrir un successeur. Mademoiselle des Anges, depuis une quinzaine, se préoccupait vivement de cette affaire comme de tout ce qui concernait les vieilles institutions lonnevoises. Ce secrétaire futur, il était quelque part. La Providence y avait toujours pourvu. Mademoiselle des Anges attendait une inspiration et l'inspiration avait jailli tout à coup. « J'ai l'homme qu'il nous faut pour les voisins !» disait-elle à M. Colombe en le tirant à l'écart, au fond de la serre, tandis que le reste de la société, accoutumé à ses façons d'agir, s'éloignait discrètement. « Ah, vraiment ? Qui cela ?» Rémy d'Orbe. « Pourquoi cet air stupéfait ? N'a-t-il pas des loisirs et l'intelligence nécessaires ?
En premier lieu, cette charge fera de lui un homme utile, elle donnera un sens à sa vie. En second lieu, nous lui devons, pour des raisons spéciales, cette marque de notre confiance, et en troisième lieu, je le veux. » Monsieur Colombe s'inclina. « Je vous donne 10 minutes, reprit Mademoiselle des Anges, pour conférer avec les autres membres du conseil, 5 minutes pour faire l'offre à Monsieur d'Orbe que vous trouverez là-bas, et 5 minutes pour me rapporter sa réponse, qui sera affirmative. Allez, cher monsieur, les affaires qui traînent ne valent rien. » Là-dessus, elle rejoignit son monde, tandis que Monsieur Colombe s'éloignait, un peu émotionné par cette façon cavalière de traiter les questions administratives. L'effarement fut grand parmi ses collègues quand il leur communiqua l'ultimatum de leur souveraine. Mademoiselle des Anges avait toujours fait la pluie et le beau temps dans leur comité, comme du reste dans tous les comités de l'Eau-Neuve, mais ses décrets avaient été généralement ceux du bon sens en personne. « Bah ! Dit enfin le vice-président, nous nous alarmons trop tôt. Vous verrez que M. d'Orbe refusera. » Ce fut avec cet espoir que M. Colombe partit pour sa mission. Malgré le commencement d'amitié qu'il attirait vers Rémy, il était loin de le juger digne des fonctions dont on voulait l'honorer. De plus, il n'était pas sans avoir entendu quelque écho des bruits fâcheux qui circulaient, et il estimait qu'un secrétaire des voisins, comme la femme de César, ne doit pas même être soupçonné. Ce fut donc avec un médiocre enthousiasme qu'il se mit à la recherche de Rémy. Quand il l'aperçut, assis au pied d'un arbre, apparemment en tête-à-tête avec Mademoiselle Odel, il fut sur le point de rebrousser chemin, comme une personnification des convenances outragées. Mais l'instant d'après, il vit Madame Vandeuvre à l'arrière-plan, dans son rôle d'ange tutélaire, et il s'apaisa. Ce fut néanmoins avec froideur qu'il salua Monique, puis il se tourna vers Rémy. « J'ai une communication à vous faire de la part d'une corporation que je représente, » dit-il majestueusement. « La présence de mademoiselle, dont je connais les excellents principes et la discrétion, ne me gêne en rien. Le fonds des voisins, monsieur, vous offre la charge de secrétaire de son conseil. » Rémy connaissait fort bien cette institution dont son père avait été autrefois président. Il savait quels devoirs incombaient au secrétaire et il se jugeait, après une aussi longue absence de l'Eau-Neuve, incapable de les remplir avec le discernement nécessaire. Étonné de cette offre soudaine, il y réfléchit pendant quelques minutes, tandis que M. Colombe adressait à Monique de solennelles remarques sur le temps. « Je ne sais vraiment à quoi je dois l'honneur qu'on me fait. Ce n'est certainement pas à mon mérite, » dit enfin Rémy. « Si c'est une marque de confiance que votre honorable conseil veut bien m'accorder, j'y suis plus sensible que je ne saurais dire. Veuillez lui transmettre, avec mon refus d'assumer une tâche à laquelle je suis mal préparé, tous mes remerciements et l'assurance que je suis entièrement à sa disposition pour le servir autrement. » Monique trouva ce petit discours admirable. Elle savait à l'avance que Rémy répondrait ainsi, tranquillement, simplement, et qu'il aurait la dignité de son côté, quelles que fussent les intentions secrètes de cette étonnante ambassade. M. Colombe parut soulagé. Cependant, pour la forme, il insista. Une certaine activité administrative est nécessaire dans notre ville, où les distractions mondaines sont rares et où les loisirs deviennent aisément fastidieux, dit-il. « J'ai de la besogne taillée pour longtemps, quoique dans une étoffe un peu différente, » répondit Rémy. « Mon intention était de publier une relation de mes rôderies et j'ai déjà trouvé un mécène qui m'y encourage, » ajouta-t-il en regardant Monique. La jeune fille rougit de plaisir. Dans le rôle d'oiseau-mouche que son cercle lui faisait, elle était rarement prise au sérieux comme elle méritait de l'être. Elle en avait souffert plus d'une fois. Mais, aux yeux de Rémy, son opinion avait donc quelque valeur, il en tenait compte, ses paroles auraient une petite part dans le travail dont l'Eau-Neuve serait forcée de reconnaître la valeur. Heureuse et fière de la place qu'il lui faisait, elle répondit au regard du jeune homme par un sourire rayonnant. Monsieur Colombe, à traversant l'orgnon, vit très distinctement ce sourire et cette rougeur. Aussitôt, il lui parut que toutes les colonnes de l'ordre social étaient ébranlées, que tous les principes dansaient la sarabande, que les filles les mieux élevées devenaient légères et que les jeunes gens du siècle repoussaient de sainte voix pour se consacrer à une littérature frivole. C'est votre réponse définitive que je porte à mon comité, fit-il avec une grande raideur. Définitive, si vous voulez bien être mon interprète. M. Colombe s'éloigna. Est-ce sérieux? J'ai peine à le croire, dit Rémy à Monique. M. Colombe n'est pas homme à plaisanter, mais j'avoue aussi que cette démarche me paraît étrange. Si abrupte d'un bout à l'autre. Et si peu engageante dans les termes, même avec le désir d'accepter, vous auriez été obligé de refuser. C'est ce que j'ai fort bien senti. Il était impossible d'hésiter une seconde. D'ailleurs, avant de songer à la chose publique, j'aurais besoin d'une ou deux années pour me retrouver, pour réapprendre la vie d'ici, pour me refaire une peau de l'aunevoie. Ah, madame, vous nous aviez désertés, fit-il en se levant pour aller à la rencontre de madame Vandeuvre qui se rapprochait d'eux. Je vous ai beaucoup manqué, sans doute. Monsieur Colombe est déjà parti. Comme vous voyez, mettez-vous ici, je vous prie. Le soleil y a passé, vous ne trouverez plus l'ombre trop fraîche. Je crains que nous n'ayons déjà fait trop longtemps bande à part, dit Berthe en consultant sa montre. Retournons. Ils reprirent lentement le chemin des serres où M. Colombe venait d'arriver. Eh bien, fit Mademoiselle Desanges en apercevant son mandataire. Vous voilà enfin. J'ai cru qu'on ne vous reverrait jamais. Vous êtes en retard de 8 minutes et demie. Et que dit M. Dorme de notre proposition? Peut-il entrer en charge demain? « Monsieur Dorbe refuse formellement, répondit l'ambassadeur, qui, tout plein encore d'une sainte colère, choisit exprès les termes les plus propres à irriter l'impérieuse vieille demoiselle. « Il refuse? Je voudrais bien voir cela. Allons donc, c'est impossible. Vous vous y êtes pris maladroitement. »« Je méritais une autre récompense, fit Monsieur Colombe d'un ton blessé. « Bon, bon, ne vous fâchez pas, mais le monde est donc détraqué. » Détraqué, c'est le mot. Il n'y a plus rien de stable, plus de principe, plus de tenue, rien. Et quelle raison donne-t-il, je vous prie? Interrogea Mademoiselle Desanges en se campant devant lui, les bras croisés. Il veut écrire un livre. Quelle sorte de livre? Un récit de ses voyages, si j'ai bien compris. Marchandise légère! N'importe, s'il y tient, il pourra l'écrire à ses moments perdus et accepter tout de même cet emploi. Il ne sait pas ce qu'il refuse. C'est la considération, c'est une position franche, c'est un démenti au bruit qui court. Il a perdu le sens, je le lui dirai. Je vous prierai respectueusement de ne pas insister auprès de M. Dorbe, fit M. Colombe d'un ton résolu. Mon comité et moi, nous nous attendions à ce refus, nous le tenons pour définitif. Là-dessus, il s'inclina devant Mademoiselle Desanges et la quitta. La belliqueuse petite personne ne semblait jamais plus forte qu'en face d'une résistance. « Ils sentiront ma main, » dit-elle, les yeux pleins d'un feu martial. « Ils verront si l'on m'échappe. Comment l'honneur aurait prospéré pendant 35 ans sous ma direction pour finir dans l'anarchie? Je les remettrai tous à leur place, » à commencer par Monique Audel, qui se mêle aussi de dire non. Ils ne savent plus dire que non, c'est une épidémie. Mais où donc est-elle, cette Monique? Voilà une heure que je ne l'ai aperçue. C'est une petite barque folle qu'il s'agit d'amarrer au plus tôt dans le mariage. J'entends que d'ici à demain au plus tard, M. Colombe ait présenté sa demande.